C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour. Pour lui, c'est devenu comme une évidence, une urgence. Capter la beauté des paysages et des éléments, comme un devoir de mémoire. Philippe Bourseiller traque la fragilité de la glace, la violence des volcans, la puissance des forêts et l'immensité du Sahara depuis plus de 30 ans. Il sera notre invité dans la deuxième partie de l'émission. C'est un paradoxe que l'on retrouve dans de nombreux endroits du monde. Le détroit du Bosphore, qui sépare la ville d'Istanbul en deux et relie la mer Noire à la mer de Marmara, est fortement pollué par l'intensité du trafic maritime et les rejets des eaux usées des industries et des villes avoisinantes. Et malgré cela, il est aussi victime de la surpêche. Le contraste est saisissant entre l'intense activité des pêcheurs et ce que disent les scientifiques sur l'insalubrité de l'eau, comme le démontre ce reportage de Camille Lafrance.
On est sur le pont Galata, qui est au cœur d'Istanbul, hein, sur le Bosphore. On voit évidemment tous ces immeubles enchevêtrés les uns dans les autres, et puis beaucoup de passages, des promeneurs sur le pont, au milieu les voitures et le tramway, et puis tout le trafic des bateaux également, bateaux de plaisance, et plus loin les gros tankers et les bateaux de transport. Il y a des rangées d'hommes, hein, tout le long du pont qui sont en train de pêcher à la ligne. Certains ont mis leur manteau parce qu'ils sont là depuis plusieurs heures et qu'il commence à faire froid sous une belle lumière. Et ils sont tellement nombreux qu'il y a même des vendeurs de thé à la sauvette là, qui passent d'un homme à l'autre. C'est que des hommes, hein, qui pêchent. Donc là, il y a deux jeunes femmes qui achètent du poisson sur le pont à un des pêcheurs à la ligne. Vous achetez régulièrement du poisson ici ?
Oui, car ils sont plus frais et meilleurs qu'ailleurs. Donc nous préférons les acheter ici.
Par contre, il n'y a pas plus de pollution ici, comme il y a beaucoup de trafic de bateaux, par exemple, et qu'il y a la ville juste à côté ?
Je n'ai pas beaucoup d'informations à ce sujet. Je ne sais pas. D'après moi, si c'était nocif pour notre santé, des mesures auraient été prises. Si le poisson était intoxiqué, il mourrait. Si c'était le cas, les poissons flotteraient à la surface.
Alors là, il y a un monsieur qui pêche avec son petit garçon à côté, dans une longue ribambelle de pêcheurs, hein, qui couvre pratiquement tout le pont. Ils sont tous collés les uns aux autres avec des longues cannes pour la pêche à la ligne. Bonjour monsieur, Maraba. Vous venez pêcher ici souvent ?
Ça fait presque 5-6 ans que nous venons pêcher ici. C'est pour passer du bon temps. C'est un hobby pour nous.
Nous allons au lac en été et nous venons ici l'hiver. Il y a moins de poissons que par le passé ici. La mer est polluée aussi bien par les bateaux que par les gens. Ça n'arrive pas de nulle part. C'est l'être humain qui pollue la mer.
Ici, c'est plus propre que de l'autre côté. Il n'y a pas de canalisation. Il y a une usine de traitement des eaux usées plus loin, vers Aksaray. Toutes les eaux usées y sont traitées avant d'être déversées.
Là, on est à l'entrée d'un marché aux poissons, juste en contrebas du pont. Il y a énormément de familles qui se baladent, qui vont y faire leurs courses, et même quelques vendeurs qui font griller du poisson sur des petits barbecues de fortune posés sur des palettes sur le côté. Et les crieurs qui essaient d'attirer l'attention des acheteurs.
Bienvenue. Regarde ces poissons-là. Ils viennent du Bosphore et ceux-là viennent de la mer Noire. Les dorades viennent de la mer Égée. Les loups de mer, eux, viennent de la mer Noire, tout comme les bonites.
Et est-ce que c'est un problème pour la santé si on mange du poisson ?
C'est très bon, c'est pas dangereux, mais ça dépend où ils sont pêchés. Pour nous, c'est OK, parce qu'on pêche en haute mer.
Et au bout du marché, sous le même toit, il y a énormément de tables avec des petits restaurants qui font griller toutes sortes de poissons. Il y a énormément de roulements, beaucoup de monde, beaucoup de familles qui viennent manger ici. Et on y vend aussi des moules farcies, c'est une spécialité d'Istanbul, hein, des moules farcies au riz avec des épices, notamment de la cannelle. Marhaba. Est-ce que vous pensez que les poissons sont pollués ici ?
Maintenant, le Bosphore, il est bien plus propre. Ce n'est plus aussi sale comme dans le passé. Il y a 20 ans, on n'y trouvait pas autant de poissons qu'aujourd'hui. Ça prouve bien que la mer de Marmara et le Bosphore sont plus propres.
Il n'y a pas plus de problèmes avec les moules qu'avec d'autres poissons.
Les moules sont propres. On les achète puis on les prépare avec amour pour les farcir. Tout le monde en est satisfait.
Seni gören şifa bulur, gel de gönlüm şifa bulur.
Je m'appelle Bayram Öztürk, je suis professeur à l'université d'Istanbul, je suis directeur de la Fondation Turque pour la Recherche Maritime et je suis océanographe. Nous nous trouvons à Beykoz, dans le détroit d'Istanbul, sur la rive asiatique et on va sur la rive européenne à Yenikoy, en face. Là, vous pouvez voir de grosses méduses. Normalement, on ne devrait pas en trouver dans le détroit. Ça s'appelle les méduses poulpes. Tiens, regarde, en voilà une autre.
Ouais, elle est très grande, on la voit avancer avec ses filaments derrière. Et autour, il y en a des plus petites.
Oui, exactement. Les petites sont cosmopolites, des méduses natives de ces eaux. Mais les grandes, non. Et leur présence indique une pollution. Elles sont là à cause de l'eutrophisation du milieu, due à la pollution terrestre de la ville d'Istanbul. On trouve une grande quantité de phosphate et de nitrate, et elles s'en nourrissent.
Et elles sont très grosses, hein. Elles font plus de 20 cm, blanches, avec des auréoles violettes à l'intérieur. Elles sont assez impressionnantes, et c'est vrai que tout autour, il y a un nuage de petites méduses, mais alors là, pour le coup, transparentes et complètement anodines.
They cause big blooms. Elles se sont multipliées ces dernières années. D'abord à cause de la pollution et deuxièmement à cause du changement climatique. Pourquoi y en a-t-il autant ? Eh bien, car nous avons pêché la plupart des poissons qui étaient leurs prédateurs, comme le poisson lune, les tortues de mer et le maquereau. Et donc, les méduses se sont multipliées.
Alors là, qu'est-ce que vous avez sur votre téléphone ?
Oui, c'est un poster des méduses qu'on a fait pour que les gens prennent conscience du problème. Car certaines espèces piquent. Certaines sont arrivées de la mer Rouge via le canal de Suez, à travers les courants, les eaux de ballast.
Les eaux de ballast qui sont les eaux qui stabilisent les gros bateaux et donc qui drainent des eaux d'une mer à l'autre et dans ces eaux des espèces qui ne sont pas du coin. D'où vient la pollution qui a fait venir ces méduses ?
Alors, les eaux usées et la pollution des bateaux. Dans ce détroit, 55 000 bateaux passent chaque année. 55 000. Et plus de 5 000 sont des supertankers de plus de 300 mètres. Et c'est pour ça qu'on répète que la convention MARPOL devrait être mise en place de manière plus stricte dans le détroit. On ne cesse de le demander aux autorités turques.
C'est une convention pour les mises aux normes des bateaux.
Oui, pour stopper la pollution qui vient des bateaux, car les méduses apprécient particulièrement les eaux enrichies.
Alors c'est par exemple ce qu'on a dans des détergents, dans toutes les habitations en fait, tout ce qui est rejeté avec les eaux usées.
Non, pas seulement les détergents, mais aussi les nutriments de la terre, les eaux des canalisations non purifiées, incluant les déchets humains.
Donc là, on est dans le Bosphore, un peu plus loin, il y a la mer Noire derrière un crochet que fait le Bosphore. Est-ce que cette mer Noire est moins polluée que le Bosphore et les autres surfaces qui vont vers la mer de Marmara ?
Non, la mer Noire est plus polluée et elle pollue la mer de Marmara, qui pollue elle-même la mer Égée. La mer Noire est polluée car beaucoup de rivières s'y déversent, comme le Danube, le Dniester, le Dnieper. Les taux de pollution sont très élevés.
Mais alors si c'est tellement pollué, aussi bien par ce qui arrive de la mer Noire que par le passage des bateaux, l'urbanisation quand même très intense d'Istanbul, comment ça se fait qu'on voit l'eau si claire et que dans ces quartiers chics le long du Bosphore, les gens se baignent autant ?
Le détroit a plusieurs particularités et l'une d'elles est le fait qu'il y ait différents systèmes de courant. Vous avez des zones très polluées alors que d'autres endroits, les eaux sont très claires. Mais encore une fois, on a besoin de plus d'argent pour effectuer une purification complète des eaux. La pêche excessive est un autre problème très important. Si on ne peut pas la réguler et l'arrêter dans les prochaines années, on ne trouvera plus de poissons.
Est-ce qu'il y a déjà des espèces qui ont disparu, alors que ce soit à cause de cette pêche intensive illégale ou de la pollution ?
Non, pas à cause de la pollution, mais beaucoup d'espèces vont s'éteindre à cause de la surpêche, comme le thon bleu dans la mer Noire, ou les sturgeons. Ces espèces sont en train de disparaître. Un autre problème sur lequel on doit travailler, ce sont les microplastiques. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut pas manger de moules, car elles peuvent être vraiment contaminées.
Je m'appelle Esra Bilour Balciolou, je suis ingénieure environnementale. Il y a 3 ans, j'ai fait une thèse sur la pollution au pétrole dans la mer de Marmara. Je travaille sur la pollution du système des détroits turcs, sur les moules et sur les sédiments. Voici notre laboratoire biologique où nous étudions la pollution.
Donc là, on est dans un laboratoire, il y a une sorte de mezzanine qui sert de bureau au-dessus, et puis des murs blancs, des tubes à essai, des récipients dans tous les sens, et puis des grosses machines en plastique gris. Donc là, il y a un congélateur sous l'escalier. Oh.
On a des échantillons de sédiments collectés à l'entrée et à la sortie du système des détroits.
Donc de la mer Noire jusqu'au détroit des Dardanelles.
Les moules, elles, sont des bons indicateurs pour comprendre le niveau de pollution. Elles filtrent l'eau pour avoir des nutriments pour se développer, mais elles attrapent en même temps les polluants contenus dans l'eau. J'ai fait des études sur les eaux usées à l'université, surtout dans les régions de Marmara, car les décharges y sont presque toutes déversées dans l'eau. Bon, on y trouve aussi beaucoup d'usines de traitement des eaux, mais je doute qu'elles soient utilisées correctement.
Et en ce qui concerne le pétrole, qui est votre champ de recherche ?
Parmi les composants du pétrole, il y a le benzopyrane, qui est cancérigène. Et d'après nos recherches, même les plus petites valeurs prélevées sont plus élevées que les limites autorisées.
On parle de limites de traités internationaux ?
Oui, il y a des législations comme celle de la Commission européenne et celle des régulations turques sur l'alimentation. Mais les taux découverts sont beaucoup plus élevés.
Mais alors ça signifie que même se baigner en fait dans ces eaux pourrait poser problème ?
Des collègues ont étudié les situations microbiologiques des eaux de Turquie et ils disent que ce n'est pas sain de nager, surtout dans la mer de Marmara. Ça peut avoir des effets négatifs à court terme. Mais pour le pétrole, vous ne pouvez sentir les effets négatifs qu'à long terme.
Donc tout dépend du temps d'exposition à ces produits.
Oui, si vous les ingérez, surtout quand vous mangez des moules. Et en Turquie, beaucoup de gens en mangent.
C'est la nourriture de rue.
Oui, exactement. Elles contiennent toujours différents polluants. En fait, ça dépend d'où elles viennent. Mais on recommande de ne pas manger celles de Marmara, surtout à Istanbul.
Qu'est-ce que vous avez découvert dans ces moules ?
Des polluants chimiques, comme le pétrole, car elles sont lipophiliques, c'est-à-dire qu'elles aiment l'huile, ce qui est gras. On y trouve également des métaux lourds, qui sont dangereux pour la santé humaine. Ainsi que des pesticides, la bactérie E. coli venue des eaux usées. Et c'est difficile à expliquer aux gens, car il n'y a pas d'effet négatif à court terme. C'est comme la cigarette. Si vous en fumez une, ça ne vous affecte pas. Mais si vous fumez tous les jours pendant 10 ans, là, ce sera différent. C'est exactement la même chose. Si vous mangez des moules régulièrement, tout cela s'accumulera dans votre corps.
Et vous, vous en mangez des moules ?
Non, après ma thèse, non. Ne mangez pas de moules ni des poissons d'eau profonde. Ils se nourrissent de sédiments et ils sont plus dangereux. Les poissons des profondeurs comme le rouget, le merlan, le loup de mer sont plus contaminés. On ne les recommande pas. Bonjour.
Bonjour.
Je m'appelle Serge Xian. Je vis sur l'île depuis 1958.
Donc là, on est sur l'île de Bouyukada, la plus grande des îles aux princes, en mer de Marmara, en face d'Istanbul, à peu près une heure de bateau.
Je vais plonger, la plupart du temps seul. Et quand j'estime qu'il y a quelque chose à faire contre la pollution, j'y vais avec des amis. Le grand public connaît surtout les pollutions de surface. Mais il y a aussi la pollution sous-marine, comme les filets qui restent coincés sous l'eau, qui viennent des bateaux de pêche. Font parfois 600, 800, 1500 mètres carrés. Et ils détruisent tout. Quand je les trouve, je fais des vidéos. Là, vous voyez, ils couvrent les fonds. Et donc, avec ses amis, on va les nettoyer. C'est un processus très long. Ce n'est pas facile. On doit faire beaucoup de plongées. D'abord, on y va avec des bidons. On attache ces bidons avec des cordes à chaque coin du filet. Enfin, on les remplit d'air et ainsi les filets remontent. Parfois, on donne ces filets pour qu'ils soient réutilisés. Ces dernières années, on les donne à des villages pour protéger les cultures, par exemple.
Alors là, on vient d'arriver dans le centre culturel de l'île et il y a des grands panneaux qui sont exposés dans le jardin.
En 4 ans, il y a eu plein de changements, malheureusement. Il y avait de la vie dans la mer de Marmara, mais maintenant...
Donc là, la première photo, on voit une femme qui est en train de plonger dans des coraux teintés de vert, de rose, etc. Il y en a beaucoup. Et la deuxième photo, c'est vous qui plongez avec tout l'équipement et ce même corail, ce même endroit sous-marin est complètement gris et asphyxié.
Salam.
Salut.
Vous êtes amis, en fait, tous les deux ?
Mais oui, on se connaît depuis pas mal d'années. Je m'appelle Georges. Moi, je viens pour pêcher l'hiver, surtout parce qu'il y a un poisson qui s'appelle le lufer. Le lufer est le chinacope. Ça descend de la mer Noire et ça descend pas beaucoup plus bas que la mer Égée et remonte. Donc, c'est un poisson que je viens pêcher ici.
Mais il n'est pas en voie de disparition ?
Ici, tout est en voie de disparition. Parce qu'ils font attention à rien. J'appelle même pas la surpêche, j'appelle ça un carnage. Quand j'étais enfant, ici il y avait 173 sorts de poissons. Aujourd'hui, vous pouvez même pas compter 22. Voilà l'histoire. Les gens qui exterminent la mer, c'est pas des gens qui pêchent à la ligne comme nous. Quand je vois les chalutiers, tout ce qu'ils peuvent enlever dans une journée, même une vie, ça ne pouvait pas me suffire si j'y vais tous les jours à la pêche pour que je puisse attraper autant de poissons que les chalutiers.
Mais vous avez une préoccupation commune quant à la protection de cet environnement
Vous savez, quand vous voyez un chalutier qui dit que oh, ils vont me mettre une amende, d'accord, là je vais sortir 20 tonnes. Ils vont me prendre de l'argent pour 3 tonnes et j'en ai 17 tonnes dans la poche. Je m'en fous de l'amende.
Comment vous décririez votre ami Qu'est-ce qu'il représente pour l'île?
Bah écoutez, il essaie de faire pas mal de choses sur l'île.
We succeed something, at least.
Au moins, on a réussi à faire quelque chose de bien. On a nettoyé les fonds et récupéré 14 000 mètres carrés de filets qui étaient sous l'eau et qui tuaient tout. Le corail, la vie. C'est terrible.
Un reportage de Camille Lafrance réalisé par François Porcheron. Restez sur RFI dans quelques minutes, juste après le flash d'info. Nous vous ferons partager l'émerveillement du photographe Philippe Bourseiller qui capture la beauté de la nature depuis plus de 30 ans. A tout de suite.